Laissez vos sens s'éveiller grâce à l'écoute alléchée. Un programme espiègle, léger, coquin, qui se veut aussi curieux et interrogateur. Laissez-nous vous emmener faire le tour des courbes et des brèches du désir et prendre la destination du plaisir. Cette programmation est évidemment réservée à un public mature. Embarquement imminent pour l'écoute alléchée. L'écoute alléchée sur RDOA 107.5.
Salut à vous, auditorices de l'écoute alléchée, et bienvenue dans notre émission. Alors ce soir, on vous parle d'un sujet qui, à la base, est venu sur la table pour rigoler. On s'est dit que ça serait drôle de faire un sujet léger, parce que notre temps de préparation était relativement court pour une fois. Alors moi, j'ai balancé l'idée de parler de la sexualité des animaux parce que j'avais simplement lu un article sur les dauphins et que je l'avais partagé aux autres épices. Léger et drôle, ça paraissait facile. Jusqu'à ce que le mot « zoophilie » arrive dans les discussions. Alors là, tout de suite, moi, ma réaction a été celle que j'ai d'habitude. Non, on ne parlera pas de zoophilie, c'est dégueulasse. Et puis, comme je suis de nature curieuse et que j'aime ouvrir mon esprit à d'autres possibles, et puis par la même occasion déconstruire des schémas qu'on m'a bien ancrés dans la tête, eh ben, je dois vous dire que mes recherches sur ce sujet ne m'ont pas forcément donné envie de faire du sexe avec un animal, loin de là, mais qu'elles m'ont ouvert à un autre regard sur la chose. Alors, on va commencer avec les comportements drôles et étonnants de quelques animaux, et on tentera ensuite, sans sombrer dans l'anthropomorphisme, de faire des liens entre animaux et humains. Humains qui, soit dit en passant, fait aussi partie de la catégorie mammifère. Et pour finir, on parlera de sexe entre différentes espèces. Ça promet de vous remuer, mais j'espère que vous serez assez curieux pour rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est parti.
Nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin, ils rencontrent aussi plein d'autres amis. Lulu le zébu et Edir le tapir et Dédé la galinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le capillot.
Vous êtes dans l'écoute alléchée sur RDOA et ça, c'était un petit extrait d'une chanson des Fatal Picard qui s'intitule « La ferme ». Je ne vous l'ai pas mise en entier parce qu'elle dure 8 minutes 38 et ça vaut le coup d'être vu plus qu'entendu parce que les images qui sont associées à chaque animal sont assez drôles. Si vous avez donc 8 minutes 38 à perdre, je vous laisse donc la checker sur YouTube. Alors on enchaîne maintenant avec Fleur de Sel qui va nous présenter un livre que Coriandre nous a confié dont on avait très envie de vous parler parce qu'il est superbement illustré et qu'on y apprend des choses tout à fait étonnantes sur les comportements sexuels des animaux. Je te laisse le présenter, Fleur de Sel.
Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de ce livre qui s'appelle Sexus Animalus, qui est un livre de Emmanuel Puy-de-Bas et qui est illustré par Julie Tarazzoni. Et il est très récent, il date de 2020. Et du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture. Bienvenue dans le monde déconcertant et fascinant de la sexualité animale, où tout, des organes génitaux au comportement reproductif, n'est que diversité. Montaigne nous avait prévenu, nature peut tout et fait tout, en particulier lorsqu'il s'agit d'assurer sa descendance, voire d'éprouver du plaisir. En ouvrant ce livre, vous découvrirez des pénis géants, doubles, à crochets, mobiles, sonores, détachables, des clitoris pourvus d'os ou d'épines, des vagins stockeurs de sperme, à clapet ou en labyrinthe, etc. autant de variabilité morphologique en lien direct avec une multitude de pratiques sexuelles, viol, castration chimique, élimination de la concurrence, tromperie, sacrifice, homosexualité, transsexualité, masturbation, fellation, cunnilingus, orgasme. Tout est dans la nature. Et je vais vous lire le passage sur le batelier d'eau, qui est une petite punaise d'eau et qui est réputée pour son pénis chantant. Retournons vers le monde enchanteur et merveilleux des punaises. Bienvenue chez les punaises d'eau, ou bateliers, qui vivent dans les mares et les étangs. Non pas pour parler insémination traumatique, mais pour parler communication. Car les mâles de cette punaise d'eau attirent les femelles en chantant. Jusque-là, vous me direz, ils ne sont pas les seuls. À la simple exception que le font avec leur pénis. Du haut de leurs 2 mm, les mâles frottent leur pénis contre les crêtes rugueuses de leur abdomen pour produire un son, une stridulation puissante qui attire les femelles. Certains parlent de pénis chantant. De là à dire que les origines du chant se trouvent dans le pénis, n'exagérons rien. Pour attirer les femelles dans l'eau, les mâles sont confrontés à un problème de taille, les grandes longueurs d'onde du son dans l'eau. Les cris d'accouplement des insectes mâles doivent donc bénéficier d'un volume élevé pour augmenter la portée de la transmission du signal et être entendus par une partenaire potentielle. La force de l'appel reste cependant limitée par la taille du corps et par la nécessité d'éviter les prédateurs qui pourraient les entendre et les prendre pour proie. C'est pourquoi les grillons et les bateliers mâles exploitent des structures de résonance qui produisent des chants spécifiques à l'espèce, dont la fréquence et le volume restent liés à la taille de leur corps et ne peuvent pas être captés par les prédateurs. Mais le volume peut être colossal, malgré la petite taille de ces insectes. Car ce minuscule animal, dont le pénis chantant ne mesure que 50 microns de long, détient le record du volume sonore émis par un insecte. Le pénis le plus bruyant du monde. Tenez-vous bien, cette stridulation produit jusqu'à 99 décibels. Si cela ne vous parle pas, eh bien sachez que cela correspond aux décibels que vous recevrez si vous écoutez un orchestre au premier rang. À titre de comparaison, un barrissement d'éléphant émet un peu plus de 110 décibels, mais le pachyderme est plus de 2500 fois plus grand. Cette performance fait, semble-t-il, du batelier l'animal le plus efficace en termes d'énergie acoustique, proportionnellement à sa taille. Si on savait depuis un moment que les mâles de cet insecte produisaient un chant de cour grâce au frottement de leurs pièces génitales, on ne se doutait pas que ce signal était audible depuis le bord de l'eau, à plusieurs mètres de distance, traversant l'interface entre l'eau et l'air. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la raison de l'apparition d'un chant aussi puissant reste un mystère, de même que les mécanismes exacts de sa production. Davantage de travaux sont à mener en milieu aquatique, et en particulier sur les comportements acoustiques de ces animaux, qui doivent s'adapter à un milieu spécifique, que ce soit pour leur comportement ou pour leur anatomie et ses fonctionnalités. Dans ce cas précis, l'intensité du chant est considérée comme un caractère sexuel secondaire qui apparaît au moment de la maturité sexuelle. Pas des moindres, certes, mais secondaires, de la même manière que les bois des cervidés, les chants de certains oiseaux ou les couleurs variées de bon nombre d'animaux. Ainsi, on peut supposer que le chant de ces bateliers fait l'objet d'une forte pression de sélection sexuelle entre les individus mâles. Pendant la parade nuptiale, ils sont en compétition pour s'accoupler. Le son le plus attractif va attirer un ou des partenaires. Reste à savoir comment les femelles bateliers évaluent le caractère attractif ou non du chant du pénis des mâles. Quelles stridulations sont sélectionnées? Les plus fortes? Cela est encore à déterminer.
Merci, Fleur de Sel. Alors, je rappelle le titre du livre, c'est « Sexus Animalus » d'Emmanuel Puydebas. On vous mettra les références du livre sur notre page dédiée à l'écoute alléchée sur le site de Erdiwa. Alors maintenant, Curcuma s'est intéressé au comportement des oiseaux et a pris le temps de faire quelques recherches sur leur parade de séduction. Et elle nous livre ici un petit résumé de ses recherches. On écoute.
En matière de séduction, les animaux ne manquent pas d'imagination. Les mâles déploient souvent des trésors d'ingéniosité. Couleurs, chants, danses, offrandes, parades de groupe. Le jardinier satiné. Dans le monde fabuleux des oiseaux, particulièrement doué en travaux et en architecture, on trouve les oiseaux jardiniers, endémiques d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Ces oiseaux présentent plusieurs comportements particuliers. Le mâle ne s'implique absolument pas dans les soins parentaux aux petits avec sa femelle. mais pour l'attirer, il est en revanche très impliqué. Il construit un berceau nuptial élaboré, construit sur une sorte de plateforme soigneusement sélectionnée. Sur cette plateforme, le jardinier satiné plante deux rangées de brindilles qui forment ainsi une sorte d'avenue. Parfois, ces deux rangées se rejoignent, formant ainsi une arche. Le mâle va prendre soin de ce berceau en y déposant différents éléments de leur environnement à l'entrée. Plumes, cailloux, baies. Il va également y déposer des objets artificiels, comme des morceaux de métal ou de verre. Le jardinier satiné ne choisit pas les objets par hasard, mais les sélectionne en fonction de leur couleur et du contraste produit par son berceau. Ainsi, il choisit comme base de son arche des brindilles claires, plus facilement visibles dans le sous-bois sombre dans lequel il vit. Les objets qu'il choisit ensuite sont tous bleus, la couleur la plus rare à trouver dans la nature. Le paradisier grand émeraude. Dans la catégorie des oiseaux flamboyants, les paradisiers sont au premier plan. Les mâles présentent en effet des plumages hauts en couleur qu'ils mettent en avant lors de danses nuptiales élaborées. Les paradisiers, ou oiseaux de paradis, vivent principalement dans les forêts humides de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le paradisier grand émeraude est le plus grand représentant de cette famille d'oiseaux. Il présente, contrairement à la femelle, deux touffes de très grandes plumes ornementales de couleur or qui le rendent particulièrement repérable par les femelles. Sa parade est une chorégraphie sophistiquée qu'il répète assidûment chaque jour. Chez le paradisier, les parades se font au sein d'un lek, c'est-à-dire une zone où se retrouvent plusieurs mâles dans le même temps. Chez les grébupés, on s'offre mutuellement des paquets d'herbes mouillées, de façon symbolique. Mais c'est loin d'être le plus impressionnant. Dans la parade nuptiale de ces oiseaux aquatiques, figurez-vous que les grèbes mâles ou femelles sont d'excellents danseurs. Et pour se déclarer leur amour, ils exécutent à l'unisson un formidable ballet aquatique. Il y a aussi le manakin à cuisses jaunes. C'est un oiseau vivant au Mexique et en Amérique centrale, qui, pour faire chavirer le cœur de sa bien-aimée, fait claquer ses ailes et exécute une danse qui s'apparente au moonwalk.
Si ça vous intéresse de creuser un peu plus, vous pouvez vous rendre sur YouTube où il y a des tonnes de petites vidéos sur les comportements animaliers, d'ordre sexuel ou pas. Par exemple sur les chaînes Zapping Sauvage ou National Geographic. Vous pourrez également retrouver les références de recherche de curcuma sur notre page. Alors moi, je suis tombée sur une interview diffusée sur RTL d'un naturaliste qui s'appelle Marc Giraud, qui a écrit « Le sex appeal du crocodile » et qui évoque plein de petites anecdotes concernant les comportements sexuels de quelques animaux. Par exemple, il part des caractéristiques physiques des hyènes, des taupes, guenons ou mérous qui tendent à la masculinisation. On apprend aussi la technique de drague des homards qui, je cite, « fait pipi par les yeux » pour attirer la femelle. Il parle également des stimuli nécessaires, de la performance et celle notamment du lion, de la masturbation mais aussi de la simulation. Et oui, ça existe aussi chez les animaux. Et là, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette interview.
Ces chauves-souris qui pratiquent aussi l'art de la fellation. Tiens donc.
Ah oui, alors oui, elles font beaucoup de petites gâteries, ces chauves-souris. En 2009, en laboratoire, des chercheurs qui sont vraiment aussi des amateurs, ils ont vu chez une espèce qui s'appelle le Cynoptère à Négour, que la femelle léchait la base du zgeg de son partenaire, qui était déjà en elle. Donc ça montre à la fois qu'elle est très souple et qu'elle a une longue langue, donc elle y arrive.
Ah, ça ouvre des perspectives quand même. Hein.
Oui.
J'adore la tête de Sidonie à chaque fois que je balance une vanne.
Je vois que vous avez les images.
Non mais c'est très bien pour la filiation, mais est-ce qu'elles font aussi des cunilingus?
Oui, alors ça, c'est un peu plus tard. En 2013, d'autres chercheurs dans d'autres labos ont découvert ça sur une autre espèce, la roussette géante d'Inde. Et effectivement, le mâle l'échouille la femelle avant et après l'accouplement. Bon. Donc on pense que ça augmente en même temps la durée et le plaisir. Ça a sûrement une fonction.
Mais c'est intéressant ça. Donc on peut dire que chez les animaux, il y a aussi la notion de plaisir.
Ah, ben, bien sûr qu'il y a du plaisir. Oui. On n'a pas le monopole. On l'a souvent dénigré chez les animaux. Mais on parlait tout à l'heure de la hyène. Le clitoris, c'est quand même le seul organe qui est destiné uniquement au plaisir et qui existe chez toutes les mammifères, de la souris à la baleine.
Elles en ont toutes un.
Elles connaissent toutes le plaisir.
Pendant notre réunion pré-enregistrement, Curcuma nous faisait remarquer que dans la nature, la séduction est de prime abord masculine. Alors oui, effectivement, elle naît le plus souvent de la compétition entre les mâles, qui se démènent pour être le plus séduisant ou ingénieux. Mais la séduction chez les animaux n'est pas quelque chose de vraiment romantique, car les mâles doivent en fait convaincre les femelles qu'ils sont de meilleurs géniteurs que leurs voisins. Et puis, il existe des espèces où c'est la femelle qui séduit et choisit. Chez la grenouille de Bornéo, par exemple, c'est madame qui chante et laisse même le soin des petits aux mâles. Et il existe bien d'autres fonctionnements étudiés chez d'autres espèces. Par exemple, chez les cygnes noirs d'Australie, 20% des couples sont composés de deux mâles. Ils vont se débrouiller pour obtenir des petits, soit en séduisant une femelle et en la chassant après la ponte, soit en piquant des œufs à des couples hétéros. Le petit plus de ce fonctionnement est que les petits auront ici une meilleure espérance de vie car ils seront protégés par deux mâles. Sur le littoral européen, certaines espèces d'oiseaux forment carrément des troupes, composées de deux femelles et un mâle, s'accouplant entre eux et produisant plus de petits que la moyenne. On a longtemps cru que les oiseaux étaient des exemples de monogamie. Mais il n'en est rien, car des recherches d'ADN récentes ont permis de démontrer que la réalité était tout autre. La moitié des petits sont d'un père non officiel. Et cette extra-conjugalité n'est pas exclusive aux oiseaux. Chez les marmottes, par exemple, un petit sur trois est ainsi illégitime. Au-delà de tout ça, il y a aussi des pratiques animales franchement moins roses. Alors attention, c'est pas glamour, c'est pas romantique, mais dans la nature, il y a aussi plein d'animaux chez qui les mâles prennent de force les femelles. Le meilleur, ou le pire exemple, est certainement celui de la punaise de lit. Imaginez-vous que madame n'a pas d'orifice génital. Monsieur, à l'inverse, en guise d'organe reproducteur, est doté d'un poignard. Pour la féconder, il doit donc littéralement la percer. Atroce. Alors voilà, ce petit tour d'horizon de ce qui se passe chez nos amis les bêtes me fait dire que tout existe dans la nature et que tout se fait de manière plutôt naturelle, instinctive. Les lois sont celles de l'adaptation car elles sont la clé de la survie.
J'ai appris que les singes bonobos vivent en paix car ils sont sots. Domites. Qu'ils soignent leurs conflits sociaux par le meilleur des placebos. La bite. Moi je dis que si on était moins fiers, on ferait tout comme cette jante simiesque. On pourrait vivre nos colères sans pour autant que ça déjante, ou presque. Ah, si on était des singes bonobos, mon pote, la vie serait super. Qu'est-ce qu'on se mettrait? J'en connais même qui feraient semblant d'être en colère. Yeah, 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 yeah. Imagine notre quotidien, ce que seraient nos relations s'il fallait se faire des câlins pour pacifier nos têtes de cons. Faudrait même penser diététique et à des crèmes anti-gerçures pour pallier aux pannes physiques, se réconcilier sans brûlure. Pour le moindre conflit mondial, il n'y aurait plus qu'à opposer quelque part tous phénoménal, des bacchanales et pas de pitié. On entendrait rugir la terre d'un autre cri que la douleur, et nos orgasmes militaires la mouilleraient d'une autre couleur. Si on était des singes bonobos, mon pote, la vie serait super. Qu'est-ce qu'on se mettrait? J'en connais même qui seraient contents d'être en colère.
heureusement, on n'est que des hommes. Saturés de testostérone, avec cette triste tendance à l'exprimer dans la violence. Maintenant, si on fait tous l'effort, on peut ici conjurer le sort. Vas-y, public, à toi de choisir. Lequel sera le premier à jouir ? Si on était des singes bonobos, mon pote, la vie serait super. Qu'est-ce qu'on se mettrait ? J'en vois avec qui je serais pas fâché d'être en colère. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
C'était Philippe Philibert avec les Bonobos dans l'écoute alléchée. Vous êtes sur Air d'Ivoire et dans notre émission ce soir, on parle de la sexualité des animaux. Et cette petite musique fait une belle transition avec la chronique d'Anis Étoilé qui va nous parler des comportements sexuels des singes et en particulier des chimpanzés et des bonobos, c'est ça ?
C'est ça. Bonsoir à tous. Alors j'ai eu envie spontanément de faire une chronique sur le bonobo parce que je trouve ses mœurs dingues. Pour moi, c'est un peu l'emblème de la liberté sexuelle et du pacifisme. Le bonobo, ou Panpanicus, c'est un primate de la famille des hominidés, très proche cousin du chimpanzé, ou pantroglodyte, et c'est l'animal le plus proche génétiquement de l'humain. On a 98,7% d'ADN en commun. Et pourtant, son organisation sociale est tout à fait différente. Alors, en fait, je me suis plus concentrée sur les mœurs du bonobo que sur celles du chimpanzé, mais pour avoir une idée générale, le chimpanzé, c'est un singe qui peut facilement avoir recours à l'agressivité, qui partage peu et qui traite les problèmes de sexe par le pouvoir, contrairement à son cousin qui, lui, traite les problèmes de pouvoir par le sexe. Et ça change pas mal de choses. Les bonobos sont bisexuels, peu importe le sexe de leur partenaire. Le seul tabou sexuel pour eux, c'est l'inceste. Les trois quarts de leur activité sexuelle n'a, a priori, aucune visée reproductive. Ils pratiquent ce que les scientifiques appellent le sexe convivial. Et pour ce faire, ils ont recours à toutes sortes de jeux. Ces singes usent en effet de la masturbation manuelle, autant les femelles que les mâles, du baiser sur la bouche avec la langue s'il vous plaît, des caresses génito-génitales, c'est-à-dire partie intime contre partie intime, et de la fellation en plus de la basique pénétration. Le bonobo est aussi le seul primate à avoir des rapports face à face, comme nous les humains. En somme, un large panel de plaisirs. Et du plaisir, ils en prennent vraiment si l'on en croit leurs expressions faciales et les sons qu'ils émettent. Et tout ça tous les jours avec une multitude de partenaires et de positions. Quel coquin, me direz-vous ? Oui, mais au-delà de la coquinerie, le sexe est un vrai moyen d'apaisement social pour le bonobo et ça marche. Par exemple, une femelle peut avoir des rapports avec un maximum de mâles pour semer le doute dans la tête de ces derniers sur leur potentielle paternité. Ce qui évite les attaques des mâles sur les bébés de celle-ci, puisqu'un mâle bonobo n'attaquera pas sa progéniture. En fait, elle va se servir du sexe pour protéger ses bébés, et cela évite au mâle dans le même temps d'avoir à user de la force. Aussi, un individu subordonné peut utiliser les actes sexuels pour calmer un individu plus fort ou plus agressif. Ces stratagèmes fonctionnent bien a priori, car le bonobo est vraiment un singe pacifique, et il est rare que des conflits dégénèrent. Bon, il use aussi d'un bouc émissaire pour apaiser les tensions. Tout n'est donc pas que sex and sun, mais qui serions-nous pour nous ériger en juge ? Pour finir, j'avais envie, même si ça ne concerne pas directement la vie sexuelle de ce singe, de faire un petit aparté sur les femelles bonobos. Et pour cause, l'organisation chez le bonobo est matriarcale. Les femelles sont très solidaires, elles passent beaucoup de temps entre elles, et surtout ce sont des alliées. Un mâle trop agressif avec l'une d'entre elles, elles font bloc pour protéger leur consœur. Les mâles se le tiennent pour dit et ne mouffent pas trop de manière générale. Ce singe n'aurait-il pas finalement compris bien plus que nous, humains, comment apaiser les tensions et éviter les guerres ? Et comment peut-on être si proche génétiquement et si éloigné socialement ? Mystère.
Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'homme descend du singe, finalement.
Ouais. Bah ouais. Et même en fait, chez les singes, hein, je crois que c'est vraiment lui qui est le plus proche, quoi, de l'humain.
Ouais.
Et enfin, je pense.
Le bonobo.
Ouais, le bonobo. Mais en fait, le bonobo, avant, on l'appelait chimpanzé nain. Donc c'est vraiment, il est très très proche du chimpanzé. Et c'est ça aussi qui est étonnant pour moi. C'est à quel point ils sont proches, en fait, génétiquement aussi, enfin encore plus que l'humain ne l'est du bonobo. Et comment c'est possible, en fait, d'avoir des mœurs aussi différentes, quoi.
Et entre les humains et les bonobos.
Entre différentes cultures humaines, ouais.
Ou même entre dans la même espèce.
Ouais, mais du coup, à quel endroit ça se joue, en fait? Je trouve que c'est une question hyper intéressante. Parce que si c'est pas au niveau de la génétique et de l'ADN...
Dans toutes les cultures humaines, par exemple, on a des cultures très différentes d'un pays à l'autre. Et c'est juste un événement qui fait que la majorité de la population prend une certaine décision et d'agir de cette manière parce qu'elle pense que c'est la meilleure. Et d'autres qui font différemment, et on se retrouve avec des cultures différentes, des façons d'agir différentes, qui nous semblent évidentes.
Mais du coup, là, tu parles de l'humain.
De l'humain, ouais.
Ouais,
mais
du coup,
chez les animaux aussi, ouais. Quoi, en fait.
Mais parce que
ils ont une histoire, ils ont un passé, qui ont des effets sur le moment présent, et puis, à tout moment, ça pourrait rebasculer et se transformer dans une autre forme d'agir.
Parce que, par exemple, les chimpanzés et les bonobos, est-ce qu'ils vivent dans le même genre de milieu ?
Voilà, quand tu regardes, je crois que les chimpanzés et les bonobos, ils vivent en République démocratique du Congo. Et que du coup, le territoire des chimpanzés est énorme et celui des bonobos est tout petit. Okay. Bon, alors c'est aussi, c'est aussi l'humain hein, qui braconne à fond le bonobo. Mais du coup, moi, je me suis posé la question, je ne me suis pas plus renseignée que ça, mais en voyant le territoire des chimpanzés et celui des bonobos, de me dire, en fait, on voit que dans leur organisation sociale, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils vivent plutôt de manière pacifique. Mais du coup, sont-ils assez guerriers pour continuer à survivre dans un monde aussi guerroyant ?
En tout cas, ils ont des comportements qui se rapportent au comportement humain, que ce soit au niveau de la paix ou au niveau de la guerre. Ils ont.
Ouais. Et puis, c'est vrai que tu vois, par exemple, je lisais. Je trouve ça hyper touchant que les bonobos, ils ont de l'empathie. Et du coup, par exemple, quand il y a un bonobo qui baille, il y a d'autres bonobos qui vont bailler. Ce qui rappelle, en fait, les humains. Ouais. Et plus le bonobo qui regarde celui qui est en train de bailler a de l'empathie pour celui qui est en train de bailler, plus il va avoir de chances de bailler.
OK. Ouais.
Donc, il y a vraiment... Et c'est vrai que ça m'évoque aussi des aspects humains, bien sûr, parce qu'il y a aussi ça chez l'humain.
Ouais.
Je vois pas que la guerre, quoi. Je vois pas que
le
chimpanzé.
Oui, oui. Mais c'est un point parmi tant d'autres.
Oui, et puis c'est surtout que si on regarde, Ginger, tu disais, tu parlais de différences culturelles dans le monde partout. Et oui, c'est vrai, c'est très vrai. Enfin voilà, il y a d'énormes différences culturelles. Mais si on regarde l'organisation globale du monde, il y a beaucoup de conflits et beaucoup de guerres. C'est ça qui prédomine.
Je suis pas sûr que c'est ça qui prédomine. En tout cas, c'est l'image qu'on nous en donne. C'est clair qu'on voit ça partout. On voit que ça. On parle que de ces choses atroces et qui sont et pas de tout en plus. Mais on parle beaucoup moins de toutes les choses magnifiques qui se passent. Et en fait, les bonobos, je les trouve pas si différents que les humains, hein, parce qu'on fait un peu tout ça nous aussi. Enfin.
Quand elle parlait de sororité, en fait.
Ouais, mais par exemple, ça existe. En fait, le mouvement féministe, c'est exactement la même chose que les bonobos qui se réunissent contre un mâle qui est un peu... Et vous le faites,
oui,
je pense,
existe,
quand il y a une agression. Enfin,
ouais.
Bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'agressions.
Mais c'est aussi surtout qu'il y a des femmes qui sont très en colère contre les féministes. Voilà. Moi, j'entends aussi ça.
Et
après, en fait, de toute façon, tout est une question de point de vue, en fait, de sous quel prisme tu regardes une situation, une société. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai abordé ma chronique sous cet angle-là parce que je trouvais intéressant de voir à quel point deux espèces peuvent être si proches et en même temps aussi éloignées. Donc, on peut juste s'arrêter aux chimpanzés et aux bonobos sans faire le lien avec l'humain. Mais voilà, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du chimpanzé chez l'humain et pas du tout de bonobo. Moi, je vois aussi
les deux.
Oui, oui.
Ouais.
Merci pour vos partages. En tout cas, on va tenter de reprendre le fil de l'émission. Et pour la suite, on va faire des liens entre humains et animaux. Et on va surtout se pencher sur notre langage et les expressions qu'on utilise. Alors, une des premières réflexions que je me suis faite, moi, à l'émergence de ce sujet, c'est qu'il existe beaucoup d'expressions liées au sexe, chez nous les humains, qui font référence aux animaux. Et sur le sujet, on va écouter Maya Mazorette, sexperte et fine plume, qui se livre à un petit jeu d'écriture dans un de ses podcasts de la série Sex and Sounds.
Vous connaissez cette expression « faire la bête à deux dos » ? Elle est un peu passée de mode, mais elle signifie « faire l'amour ». Parce que quand on fait l'amour, manifestement, on fait toujours un peu la bête. Bon, ok, certaines font la belle, mais avant tout, on fait la bête. D'ailleurs, on parle de sexe sauvage, d'instinct, de pulsion.
Qui pourrait un jour aimer une bête ?
Et évidemment, cet imaginaire influe sur la manière dont on décrit les sons du sexe. On pousse des râles de jouissance, certains mugissent ou beuglent. Je grogne, tu roucoules, il gazouille, nous couinons, vous bramez, il miaule. Certains font des bruits de porc, on les balance ou pas. J'en connais qui baissent comme des ânes, j'en connais aussi qui traitent les femmes de chattes ou de chiennes, ce qui n'empêche nullement un mâle de pouvoir être un chien. On comprend d'ailleurs aisément l'émergence de ces métaphores animales. Les paysans qui ont inventé le français LV1 avaient la sexualité des bêtes de ferme sous les yeux et dans les oreilles, constamment. Le problème dans cette histoire, c'est que ces métaphores ne sont pas gratuites. L'immense majorité de notre culture occidentale considère l'animal comme inférieur à l'humain. Une fascinante conception du monde qui nous tire une solide balle dans le pied, puisqu'en retour, elle relègue notre sexualité dans les sphères basses et honteuses de notre expérience.
Tu dois bander comme un âne, comme un taureau. La chatte, c'est bon pour la bite.
Ceci dit, la roue tourne. De plus en plus de personnes ne parlent plus d'humains, mais d'animaux humains ou non humains, vu qu'au niveau scientifique ou éthique, il n'y a aucune raison de nous différencier d'une moule, d'un épagneul breton ou d'un mouflon. On parle volontiers de parade amoureuse pour les humains, preuve que le règne animal peut s'étendre de notre postérieur à notre transcendance, bref, du cul au cœur. En l'occurrence, beaucoup de débats actuels sur l'appropriation culturelle, sur la représentation des minorités, opposent l'appartenance à soi, à la tribu et à l'humanité en général. Sommes-nous avant tout des humains, des hommes, des femmes, des êtres vivants ? Dans le cadre de cette guerre idéologique, le sexe tient une place énorme.
Prends la place, prends la place, prends toute la place.
Et à ce titre, nos grondements et gémissements sexuels sont un symptôme parmi d'autres d'un questionnement vieux comme le monde. Qui suis-je ? Bon, je vous rassure, vous avez le droit de donner votre langue au chat.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un podcast de Maya Mazorette qui s'appelle « Comme des bêtes » et que vous pouvez retrouver sur Arte Radio. Ces petits podcasts, ils s'appellent « Sex and Sound ». Moi, il y a notamment un animal sur lequel je voudrais qu'on s'attarde parce qu'il revient souvent dans nos expressions. C'est le lapin ou lapine et par extension le lièvre. Il existe cette expression apparue au XVIIe siècle « courir deux lièvres à la fois ». Qui était utilisé surtout en parlant des entreprises galantes d'un homme à l'égard de deux femmes. On s'en sert aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément d'ordre sexuel. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un ou quelqu'une appeler de manière affectueuse son ou sa partenaire « mon petit lapin ». Et par rapport à ce lapin, il existe également dans la pensée collective l'idée qu'un individu porté sur les plaisirs sexuels est un chaud lapin et qu'une fécondité excessive pourrait être qualifiée de lapinisme. Une femme qui met effectivement au monde beaucoup d'enfants est traitée de mère lapine. Et puis, pour finir, on pose un lapin quand on ne se pointe pas à un rendez-vous. Quelle étrange expression quand on y pense. C'est Muriel Robin qui en parle dans un de ses sketchs. Je vous le partage parce que je trouve l'incompréhension assez justifiée de nos jours. On écoute.
Non, les expressions, moi, ça me pose un problème. Il y en a une qui me pose un problème. Et tout à l'heure, je l'ai entendue, je me suis dit, ça va pas, c'est bizarre. Poser un lapin, c'est très bizarre, non ? Non, alors, on s'arrête dessus deux secondes, on en parle. Bon, admettons que j'ai rendez-vous avec Robert lundi à 20h. Bon, si je lui pose un lapin, hein, donc un lapin, on pose un lapin, tout le monde trouve ça normal, on n'en parle même pas. Si je lui pose un lapin, eh ben, ça veut dire que j'y vais au rendez-vous. Justement, eh ben, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas y aller à ce rendez-vous, j'ai pas envie. Donc ça veut dire... si on va au bout, ben, ça veut dire qu'il faut que j'arrive plus tôt, c'est-à-dire par exemple à 19h, vite je pose mon lapin, vite je pars en courant, hein, en espérant que Robert n'arrive pas à l'avance, parce que bon, si, tac, je tombe sur Robert, je veux pas voir Robert. Bon, et puis alors, parenthèse, allons au bout. Le soir, Paris, éclairé, un peu sapé, maquillé, des talons de 10, crac, à la passe sous le bras. Déjà dans l'ascenseur, bonsoir. Ça va, hein? Pardon? Moi, je sens rien, personnellement. Alors, vraiment, je sais pas d'où ça. Puis alors, les amis, qu'est-ce que tu fous, Muriel? On va être en retard au restaurant. Eh ben, allez-y, commencez sans moi. Moi, je vais poser un lapin. Pardon.
Alors, bon, pour de vrai, cette expression a une réelle explication. Elle date de la fin du 19e siècle et est liée au travail des prostituées. Je vous laisse aller checker par vous-même si ça vous intéresse. Concernant le Kama Sutra aussi, il y a sûrement un truc que vous aurez remarqué, qui est que certaines positions ont des noms d'animaux. Qui n'a pas en tête, par exemple, la fameuse position de la levrette? La levrette, tiens, pourquoi avoir pris cet animal comme référence d'ailleurs? Eh bien, parce que la levrette, c'est en fait la femelle du lévrier, une espèce de chien qui a les pattes avant plus courtes que celles arrière et dont le dos est penché en avant. La personne qui est prise dans cette position a donc les épaules plus basses que le bassin, tout simplement. Alors que ce soit la levrette, le triton, le petit cheval, la tortue renversée, le papillon, l'aigle royal ou l'octopus, ou bien encore la gazelle ou la pieuvre, les noms de position du Kama Sutra ont de toute évidence été inspirés par la nature.
Yo, my fans, soul brothers. Coming back.
Give it to me.
Hit you with this freaky joint.
Give it to me now.
Huh.
Give it to me.
Yeah. You know how we do it.
Hit me up on a two-way. What? Telling me that you wanna see me. Midnight is perfect timing. Put up to the club, limbs shining. Meet you back in a VIP. Bottles popping all of me. Your girlfriend's on ecstasy. Grab your coat and roll with me. Got a nigga going crazy, living on my fantasies. Got a nigga begging, please me. Baddest I've ever seen. You got me feeling like a dead bean, and I just can't get enough. Of your Kama Sutra love.
Kama Sutra love.
Can't get enough, baby.
Kama Sutra free.
When you rollin' with the baby.
That Kama Sutra touch.
Ooh, you got me high, baby.
Kama Sutra.
Get it, get it. So I can reach out to you to let you know what love is putting me through.
Any way that I want it, baby, you always get this vibe. In the kitchen, on the countertop, and get it, don't stop. Baddest I've ever seen, it got me feeling like a dead bean, and I just can't get enough.
You
come and see your love.
You got that Kama Sutra love.
Can't get enough, baby.
Kama Sutra free.
When you roll the way to love, baby.
That Kama Sutra touch.
It's pretty long, like a young and one that kick it with me. Hey, if you don't know me, then you sip it for sure. I get it poppin' with the ladies, see me, give me some more. Not a player, no baller, on my game is tight. Ready to jump up over the seas on this plane tonight. But better still, reroute the trip down to Boca. Sex on the beach, sippin' more at mimosas. I love the way honey dip and glide. A thoroughbred ghetto queen with some badass thighs. Bob smoke, I'm a rider. Hit the sea, got me pushing up beside her. Hey, give me a broad, let me go, not a stick in the mud. Rough things on the ball, I'm a suit
you love.
Oh,
honey, it's west. Bounce, bounce, bounce. Club niggas, club niggas. It's south. Bounce, bounce, bounce. Club honey, club honey. Bounce, bounce, bounce. Thug niggas, thug west coast. Bounce, bounce, bounce. Thug honey, thug honey. West, bounce, bounce, bounce. Club niggas, club niggas. It's south.
C'était Rough Ends avec Kamasutra. Vous êtes dans l'écoute alléchée sur RD1. Alors, la nature, on en fait partie, on prend du temps à l'observer et on s'en inspire. Par contre, interdit d'y toucher, en tout cas sexuellement parlant. On peut admettre qu'un amour platonique existe, mais interdit d'aller plus loin. On va bien sûr parler maintenant de zoophilie. Alors, ce terme en lui-même est littéralement philia, qu'on trouve dans la deuxième partie du mot zoophile, désigne en fait l'état, le sentiment ou l'émotion de l'amitié ou de la camaraderie. Si l'on se réfère au XIXe siècle, où est vraiment apparu le terme zoophilie, on peut retenir que Victor Hugo, par exemple, animait un journal appelé Le Zoophile. Ce n'était pas le genre de magazine proposant des petites annonces coquines entre humains et animaux, mais bien un journal de protection animale. En fait, la zoophilie comme étant ce qu'on décrit aujourd'hui, donc reliée au domaine sexuel, était avant cela plus connue sous le nom de bestialité. Par extension, le terme zoophilie a donc lui-même été dérivé pour désigner aujourd'hui une déviance. Et oui, parce que, en fait, il signifie l'attirance sexuelle d'un être humain pour un ou plusieurs animaux. Voilà l'image figée dans nos têtes. Une perversion, qui a commencé par être considérée comme une paraphilie. Alors une paraphilie, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une attirance ou pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme communs. Ah, voilà, on y est, sortir du cadre commun. Là, on touche quelque chose qui dérange. Parce que ce cadre commun nous contient et nous rassure. Et pourtant, au-delà du champ sexuel, il est communément admis qu'on peut enfermer des animaux issus d'un tout autre milieu géographique dans des zoos ou parcs d'attractions sans leur demander s'ils sont d'accord. Là, aucun problème. On n'y voit aucune maltraitance. On peut torturer et même tuer des animaux pour des expériences scientifiques, des accessoires de mode ou des produits cosmétiques. Là aussi, aucun problème. Et puis évidemment, on peut les tuer pour les manger. Aucun problème non plus. Alors je vous partage ici un premier extrait du spectacle intitulé « Je parle toute seule » de Blanche Gardin, où elle nous livre ses expériences enfantines avec des animaux. On écoute.
On tuait des chatons à l'époque aussi. Enfin, mon père, il tuait des chatons. Pas pour son loisir, hein, mais je... quand il y avait trop de chatons, ça tuait un peu de chatons à la maison. Hein, le stock de chatons descendait nettement. Je le voyais. Et c'était une discussion de cours d'école lambda. Hein. En primaire, je me rappelle, on comparait les techniques de tuage de chatons des papas. On était là, comment il fait le tien ? Ben moi, je le mets dans un sac en plastique avec de l'éther, comme ça, il ferme bien le sac, et bam, bam, trois fois contre le mur dans le garage, après, il n'y a plus de chaton. Hein. On parlait de ça, hein. Vraiment. J'aurais pas pu l'inventer. On parlait. De ça. On n'imaginerait pas aujourd'hui un ado qui posterait sur Facebook une photo de son père hagard avec des chatons morts dans un sac, et ça, avec les yeux rouges en train de remonter de la cave. Hashtag instant complice avec daddy. Non, non. C'était notre époque. On m'a conseillé d'ailleurs de prendre un chat et pas très longtemps. Je trouve pas ça très bienveillant comme conseil. Prends un chat, ça serait... C'est perfide en fait, c'est pas du tout. Parce qu'on te dit pas, prends un hamster, ça vit 2-3 ans, d'ici là tu auras rencontré quelqu'un. Non, on te propose une solution sur 20 ans quand même. Hein. Quand on te dit, prends un chat, c'est que tes pronostics en termes d'amélioration de la situation sont pas dingues en général. Hein. Et moi j'aimerais bien prendre un chat, c'est pas le problème. J'imagine que ça doit être très efficace de pouvoir. Caresser un truc quand on veut comme ça, mais moi je peux pas prendre de chat parce que les chats j'ai torturé quand j'étais petite en fait. J'ai sodomisé avec des crayons de papier le chat. Donc, le mercredi je faisais ça et non mais c'était pas totalement gratuit hein. C'est parce que je voulais être chirurgienne quand j'étais petite Et je suis chirurgienne, les enfants sont prétentieux. Et du coup, je voulais vraiment être chirurgienne. Et je mettais mon réveil le mercredi, il n'y avait pas école. Et j'étais surexcitée, c'était jour de bloc à la maison. Et je me levais, j'enfilais un tablier de cuisine à ma mère, comme ça, je me rappelle. Et je mettais des chaussettes blanches pour faire genre grand chirurgien, super sérieux. Et là, j'opérais. Tous les animaux de la maison qui passaient, j'opérais à la chaîne tous les animaux. Et les hamsters, je les prenais, je leur appuyais sur le ventre pour les faire chier. C'était très gratifiant parce que le hamster, à peine on serre, ça fait des petites rafales de milliardistes de caca de hamster. C'est pas la douleur, hein, c'est la peur qui vient aussi. Je prenais les tortues de Californie de mon frère, et je leur faisais sauter les écailles avec un petit canif comme ça. Et après, je leur mettais de l'huile d'olive pour les rendre plus belles. C'était plus de la chirurgie esthétique, les tortues. Mais alors, ce que je préférais, c'était enculer les chats avec des crayons. Alors ça, je pouvais faire ça toute la journée. Mais toute la journée, sans me lasser. Je voyais pas, là, je disais, non, je déjeune pas. Non, je dors là. J'étais dans mon truc, il y avait vraiment un truc. Parce qu'il y avait un vrai geste médical, il y avait un vrai truc. Fallait préparer les instruments, fallait tailler le crayon, fallait stériliser avec de l'eau, fallait maintenir l'animal. Il y avait un truc un peu bonhomme aussi qui me plaisait. J'ai failli perdre un œil deux ou trois fois. Mais il y avait un truc qui se passait avec l'animal. Et ça me plaisait beaucoup, j'avoue, ça me plaisait beaucoup. Mais je le paye aujourd'hui, voilà, je le paye aujourd'hui, parce que c'est vrai que du coup, je ne pourrais pas avoir de chat, parce que les chats, quand ils me regardent, je sens qu'ils le savent ce que j'ai fait. Je ne sais pas, je sens la peur, la suspicion, la haine dans les yeux des chats. Je me sens très mal à l'aise avec les chats, du coup.
Alors même si ça choque un peu, on arrive à en rigoler. Et c'est vrai qu'on fait tous des expériences comme ça quand on est petit, et surtout tuer des petites bêtes pour voir ce que ça fait. Alors moi, ce que je remarque, c'est que les animaux, on leur fait quand même plus de mal que de bien, de manière générale, sans pour autant que ce soit considéré comme du sadisme. Et puis, à aucun moment, on ne s'attarde sur leur consentement. Alors quand on vient me dire que dans le domaine sexuel, il faudrait que la bête puisse donner son consentement, je trouve ça pas très logique. Et puis, de toute façon, un animal peut très vite nous signifier son non-consentement, justement, tout simplement grâce à son comportement. Un coup de sabot et c'est réglé. C'est vrai, ça, il est plus toléré d'inséminer des animaux en leur plongeant toute une longueur de bras dans leurs orifices, sans les prévenir, devant généralement plusieurs personnes, et en plus en se disant qu'on a accompli un bel acte, que de partager un moment câlin et coquin avec son chien ou sa chienne dans son intimité pour le plaisir. Ah, la belle espèce humaine que nous sommes. J'aimerais maintenant qu'on écoute un deuxième extrait d'un autre spectacle de Blanche Gardin, Bonne nuit Blanche, où elle renverse la vision des extinctions de masse des espèces.
Je pense que les hommes sont bêtes et méchants. Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas écolo aussi, d'ailleurs. C'est pas parce que j'aime pas la planète. Elle est super, la planète. Mais justement, je pense que les humains ne la méritent pas, la planète. Les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois, je me demande si la disparition des espèces, c'est pas en fait, c'est pas des suicides de masse d'animaux qui ils se cassent. Ils en peuvent plus de vivre avec nous. Ils en peuvent plus. Ils se cassent. Ils se cassent poliment, discrètement. Sans parler, parce que les animaux ne parlent pas en permanence, ne commandent pas tout ce qu'ils font comme nous on fait. Non mais nous on parle en permanence, ça doit être fou du point de vue des animaux quand même. Les animaux utilisent la parole à bon escient, les animaux utilisent la parole pour des choses essentielles. Les animaux ils parlent seulement pour dire vous êtes où, dégage, t'excite pas, je suis déjà en cloque, des choses comme ça, mais des choses essentielles. Nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer.
Je vous invite vraiment à regarder ce spectacle parce que c'est criant de vérité tout en étant très drôle. Par rapport au fait de s'exprimer sur tout le temps, j'aime bien ce qu'elle dit parce que en fait, nous vivons dans un monde qui fiche des opinions sur des réactions. Par exemple, ma réaction première quand on a évoqué la zoophilie a été de dire « Ah non, ça c'est dégueulasse ». Et si je prends maintenant cette réaction et que je ne vais pas plus loin dans ma réflexion quant au sujet, je fige mon opinion sans même essayer de comprendre pourquoi je pense ça. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, la vision qu'on a de la zoophilie est propre à notre pensée occidentale parce que chez nous, c'est mal perçu. Mais est-ce que vous savez qu'au-delà de nos frontières, il y a d'autres gens, d'autres cultures et d'autres approches ? Et sur le sujet, j'ai envie de vous partager un extrait d'une interview de Serge Wünsch diffusée sur la RTS, donc c'est la radio-télévision suisse. Ce docteur en neurosciences comportementales parle du sexe interespèce. Pour situer un peu ce monsieur, il faut savoir que ses recherches en psychologie biologique ont pour objectif, à partir des interactions entre les facteurs biologiques et culturels, de comprendre le développement des comportements humains. On l'écoute tout de suite.
Alors effectivement, il y a le facteur culturel qui va être extrêmement important chez l'être humain. On sait que dans certaines sociétés, comme par exemple dans l'Europe du Moyen-Âge, pour prendre quelque chose qu'on connaît un petit peu, la bestialité, donc l'activité sexuelle avec des animaux, c'était quelque chose qui était considéré à l'époque comme une abomination. Et les personnes qui avaient ces pratiques risquaient la peine de mort. Elles étaient envoyées souvent au bûcher. Par contre, si on prend l'autre extrémité du continuum, comme les Indiens Hopi pour l'Amérique du Nord, ou les Esquimaux Koper, ou les Maasai en Afrique, dans ces sociétés, on observe que les activités sexuelles avec des animaux vont être considérées comme aussi normales que des activités sexuelles avec des humains.
Alors, dans notre société occidentale, la zoophilie apparaît, comme le dit Serge Wünsch, comme une abomination. Pourquoi ? Pour plein de raisons qui peuvent être d'ordre religieuse. Entendez la non-conformité avec la sexualité telle qu'elle est définie par les textes sacrés. Elle peut être également morale, entendez suggestion, soumission ou pas de recueil de consentement. Éthique, en lien avec le droit des animaux. Psychologique et sociale, entendez les risques de désocialisation et d'exclusion pour l'humain. Et finalement, médicale, entendez la transmission de pathogènes d'une espèce à l'autre. Il faut savoir que la zoophilie est condamnable en France. Pour info, l'article 50 de la loi numéro 2004-204 a été modifié et dit que le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal à titre définitif ou non. Mais dans certains pays, en 2021, il n'existe pas encore de sanctions. Alors, il y a des règles un peu floues, mais je vais vous les évoquer. Par exemple, en Espagne, aucune loi ne réprimande de manière explicite les actes sexuels zoophiles et il n'existe aucune condamnation. Néanmoins, il existe des lois contre la maltraitance faite envers les animaux. En Allemagne, les relations sexuelles avec des animaux ne sont pas reconnues comme illégales, mais la zoophilie est réprimandée seulement si elle est pornographique. En Finlande, la zoophilie est légale tant qu'aucune blessure physique n'est infligée à l'animal. En Bulgarie, Hongrie et Roumanie, elle n'est pas sanctionnée par les lois tout en étant généralement considérée comme une perversion. Seule la cruauté physique faite à l'animal, qu'on appelle zoosadisme, est punie. Tout ça, c'est finalement un peu tordu, dans le sens où, comme je le disais auparavant, la maltraitance hors du cadre sexuel est complètement admise. Et puis attention, ici apparaît un nouveau mot qu'il faut absolument différencier de la zoophilie, qui, elle, est l'amour des animaux, alors que le zoosadisme, lui, consiste à faire du mal aux animaux dans le but d'éprouver un plaisir sexuel. Pour illustrer ce que pourrait être le zoosadisme, je vous partage un bout de scénario de David, que nous avons pu recueillir lors d'une interview qu'on a fait avec Ginger. Alors attention, c'est aussi dérangeant qu'intéressant. C'est parti.
C'est un petit scénario que j'ai écrit, moi, pour un solo, voilà, qui parle d'un personnage qui a été berger d'abord, mm-hmm. et puis ensuite qui a exercé le métier de travelo à Madrid. Je retrace son histoire. Et donc, j'ai écrit ses premiers instants de vie dans la montagne avec son troupeau.
Ok, ça c'est une fiction que tu as totalement inventée.
C'est une fiction, oui, mais quand même à base de vérification, de recherche, de prise de source.
D'accord.
Ouais.
Et tu as trouvé ça ou dans des bouquins ou dans les nouvelles?
Non,
ou...
dans des personnages dans la montagne que je connais. Qui,
d'accord.
Voilà, qui ont été à même de...
Qui t'ont livré leur histoire, quelque part.
Oui, ouais, ouais.
D'accord, ok. Donc c'est une fiction en réalité, presque.
Voilà, ouais.
Ok.
Le gros titre, Scandale dans la montagne. Deux jeunes femmes en randonnée sont tombées nez à nez avec une scène dont elles n'étaient pas en mesure d'imaginer la possibilité. En effet, leurs pas se sont arrêtés non loin d'un petit ressaut de terrain. Là, elles ont vu de leurs yeux et entendu une brebis bêlante et se débattant et un homme accroché à la toison à l'arrière de la bête, le pantalon laissé, baissé, en train de pénétrer violemment l'animal. Les deux femmes, stupéfaites et atterrées, ont repris leur chemin en sens inverse et au pas de course, craignant pour elles-mêmes. Elles se sont rendues à la gendarmerie la plus proche pour signaler les faits et gestes scandaleux du berger zoophile.
Alors là, dans cet extrait, ça s'apparente clairement à du zoosadisme, puisque la bête est prise de force. Après, là, on entend plutôt les mots du journaliste qui tourne ça d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il y a une nette différence entre zoosadisme et zoophilie. Et on va écouter maintenant un autre passage du texte de David et qui amène à une autre réflexion sur la chose.
Tiens, dans un autre temps, je gardais mon petit troupeau et comme d'habitude, vers les midis, on se retrouvait en Crète. Pas le pays, non, dans la montagne, la Crète. On se retrouvait pour chômer, pour ruminer tranquillement au soleil. Moi, j'étais calé à mon rocher, prêt à sortir du sac ce qu'il y aurait pour casser la graine. Quand tout à coup, je vois Mignonne, ma préférée dans le troupeau, qui se lève et me rejoint sur la pointe des sabots. Plantée devant moi, elle me fixe dans les yeux avec à ses lèvres un doux bêlement. Et doucement, enfonçant sa tête entre mes jambes, elle va et vient avec son museau. Je défais la ceinture, déboutonne la braguette et sors mon ministre affamé au soleil. C'était pas comme d'habitude. Toujours, c'était moi qui la prenais, un peu en force, contre le mur de la bergerie. Là, c'était autre. Sa langue de bête un peu râpeuse a léché longtemps ma pine ravie, dressée comme un étendard entre la chaleur et le chatouillement insistant du prépuce et du gland. Le gonflement ne s'arrêtait pas. Fermant les yeux, je sentais ma baudruche et mon cœur accélérer dans la montée. Mignonne continuait. Elle se tourna au-dessus de moi pour me présenter en contre-plongée ses cuisses et sa petite vulve rose, une goutte emperlée. Elle s'accroupit et attendit. Mes doigts empoignèrent la laine et relevant un peu la tête, mes lèvres et ma langue se collèrent à la fente dans une bouillie de succion de peau et de salive. Nous bêlions doucement par brèves secousses. Nous vagissions en cascadelle. Nous nous sucions frénétiquement. Je la sentis monter dans son plaisir, accélérant les coups de bassin vers ma bouche. Ça y est, elle se délivre. La poche des os crève et explose. Je suis sous la douche parfumée et tiède. Ma belle se dégage comme pour s'excuser et elle pousse et pousse et pousse encore. Deux petits sabots pointent leur nez. Je l'aide et nous sortons un beau petit brin d'agneau, normal, bien fait. Je sais qu'il n'est pas de moi. Ça se saurait. Il se met sur ses pattes, tête un coup, et nous rejoignons le troupeau qui, trouvant le temps long, avait repris la descente. Dans notre marche béate et embrumée, nous croisons les touristes. Ils m'arrêtent. Et deux femmes me prennent en sandwich pour prendre la photo souvenir, bien sûr. Laissons-nous faire. C'est pas pour moi. J'étais jeune pourtant. Voilà, c'est un petit instant dans la montagne pour un homme seul depuis sa tendre jeunesse, quoi. On l'a placé comme berger dans la montagne. Et, voilà, il se passe ce qui se passe. Mm-hmm. Et je pense que ça se passe souvent encore dans la montagne, que ça s'est passé. La religion, les idéologies modèlent, essayent de modeler. On essaye de se modeler par tous les moyens, on essaye de réfréner. Et c'est assez incompréhensible, ça. Pourquoi, ouais. Pourquoi on réfrène le plaisir et celui de l'autre? Ben, je pense qu'on a jugulé ça pour avoir le contrôle de la masse. C'est vrai que si on lâche tout, il y a débordement. mais naturel, quoi. En tout cas, le rapport avec l'animal, il a existé de tout temps. Hein, on en a part dans la mythologie, on a beaucoup de dessins en Inde, par exemple, où on voit des hommes et des femmes copuler avec des animaux, hein, des éléphants, des chevaux. Il y a toute une imagerie érotique autour de ça, ce qui est très important. Et pourquoi nous, on a mis le holà ? On sait très bien qu'il y a eu des procès d'animaux pendant l'Inquisition, des truies qui se retrouvent sur le bûcher. Ça paraît un peu comme un barbecue, un peu fou dingue, quoi. Comment l'homme peut s'empêcher. Moi, je demande à chacun d'aller chercher dans son histoire. Qu'est-ce qu'il a vécu avec l'animal ? Et de ne voilà, de pas se culpabiliser ou de sentir de sentir qu'est-ce qui s'est passé voilà, sans forme de procès, quoi.
Merci David, en tout cas, pour le partage de ces textes.
Ouais, moi je suis trop content de vous livrer ça. Je serais curieux d'avoir des retours des auditeurs de même.
Ouais, on leur demandera
ce que ça envoie chez eux.
Ouais, ça merci. Marche. Merci à toi. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu ça ?
Ouais, moi ça me... Il y a un truc au niveau du ventre, là, ça me... Voilà, ici Fleur de Sel, hein, c'est Fleur de Sel qui parle. Je suis pas à l'aise à entendre ce genre de choses. J'essaye d'ouvrir mon esprit et de... Et je comprends, en fait, ce que veut dire David. Enfin, je comprends ce qu'il dit, en fait. Mais ça me tend, quoi. Ça me tend.
Non, ouais, moi, ça me fait un peu le même effet. Il y a quelque chose qui me dégoûte. Voilà. Et donc, oui, c'est Annie, c'est toi, qui parle. Je me dis, voilà, ce texte que David a écrit en s'appuyant sur des témoignages, moi, je me demande si c'est pas la vision biaisée du berger qui a envie de croire que sa brebis, elle le désire et qu'elle vient le chercher pour ça. Je dis pas que c'est impossible, en fait, parce que j'en sais rien. J'ai jamais vécu ça. Mais en tout cas, voilà, je me questionne. Et après, par contre, je trouve ça hyper chouette de se poser ces questions. Et je comprends aussi complètement, en fait, ce que David dit, et d'aller voir aussi qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, et pourquoi, en fait, ça fait ça. Moi, je me demande pourquoi je suis en réaction comme ça.
Moi, je pense clairement qu'il y a un côté culturel qui intervient. Important, quoi. Parce qu'on a été conditionné à ce qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles avec des animaux, tout simplement. C'est un truc qui a été inséné dans notre esprit et que c'est inscrit comme ça, en fait. Et que moi aussi, ça, quand j'ai entendu le texte, j'étais vraiment dérangée. Je le regardais, mais en même temps, j'étais là, oh, ouais, non, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Mais parce qu'on a été éduqués là-dedans, quoi.
Moi, je l'ai entendu plusieurs fois et il me l'a joué, il m'a fait tout le spectacle. Et à chaque fois, je suis choqué par cette petite goutte, cette petite perle. Enfin, plein de détails. Ça me prend les tripes et tout. Mais après, ce que je trouve magnifique, c'est... c'est comment c'est écrit, mais de voir que quelqu'un d'autre peut ressentir ça d'une manière complètement différente. Et que cette personne, ça ne la dérange pas du tout, et qu'elle aime, et elle le vit avec plaisir, et on pourrait même voir amour. Et effectivement, de notre point de vue, on peut se demander si ce n'est pas biaisé, comme... mais peut-on se le permettre aussi ? Enfin, je veux dire, c'est peut-être très sincère et...
En tout cas, auditoris, vous pouvez nous faire part de vos réactions. Sur notre page Facebook, par exemple, l'écoute alléchée. David serait ravi de recueillir vos ressentis. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que beaucoup de personnes en faveur de la zoophilie expliquent que cette pratique n'implique pas la maltraitance des animaux et il n'existe aucun acte de cruauté chez les individus zoophiles. La majorité d'entre eux affirment qu'ils ne sont donc pas cruels et se présentent comme des partisans de la protection animale. Pour mieux comprendre la part psychologique qui se joue dans tout ça, on va écouter un autre extrait de l'interview de Serge Wünsch.
Alors, chez l'être humain, la sexualité, c'est un peu plus complexe. Il y a plus de facteurs qui interviennent. Donc, l'apprentissage ne va pas être le seul facteur à prendre en compte, mais ça va toujours rester un facteur très important. Pour donner un exemple concret, une personne qui vit depuis toujours avec les animaux, pendant des années, elle a appris à les connaître, elle a appris à s'en occuper, elle a appris à les aimer. Et d'ailleurs, si on se base sur les études scientifiques, on se rend compte que les personnes qui ont vécu, par exemple, dans une ferme pendant toute leur vie, si en plus, dans leur adolescence, il y a un ami qui va leur montrer comment est-ce qu'on peut avoir des activités sexuelles avec des animaux, il est très probable que ces personnes, elles vont imiter leurs camarades et donc elles vont apprendre à avoir des activités sexuelles avec des animaux. Et pour donner un élément plus chiffré, Kinsey, qui a donc fait ses fameuses études sur la sexualité humaine dans les années 1950, Kinsey avait observé que plus de 40% des adolescents qui vivaient dans une ferme avaient eu au moins une activité sexuelle avec des animaux.
Les gens en parlaient librement. Une étude comme ça peut être faite sérieusement ?
Les études de Kinsey, ça portait quand même sur plusieurs milliers de personnes. Donc au niveau du nombre de personnes qui ont été contactées, c'est quand même relativement significatif. Bon, alors il faut aussi savoir qu'à l'époque de Kinsey, il n'y avait pas encore tous les médias, il n'y avait pas toute la télévision, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce d'uniformisation des valeurs sexuelles qui a été induite par la culture de masse diffusée par les médias, etc. Les personnes qui sont interrogées, elles vont dire qu'elles préfèrent les activités avec des animaux parce qu'il ne va pas y avoir de disputes, il ne va pas y avoir de moqueries, il n'y a pas de critique ou de jugement. Parce qu'elles ont beaucoup plus de confiance en l'animal, en raison aussi de la disponibilité quasi totale. Et puis aussi, c'est un facteur qui revient très souvent, le fait de pouvoir recevoir de l'animal un amour inconditionnel. Par contre, par rapport aux caractéristiques cognitives, et alors là, c'est quelque chose qui est très intéressant, même si on retrouve à peu près les mêmes types de caractéristiques cognitives, eh bien, on s'aperçoit qu'en général, elles sont toujours beaucoup plus positives avec un être humain. De manière systématique, dans les enquêtes, les personnes interrogées, elles vont indiquer qu'avec l'animal, il y a un manque de support mutuel, ce qui est un petit peu évident. Il va y avoir aussi un manque de romantisme, un manque d'échange intellectuel. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ces facteurs cognitifs que même dans les sociétés où la sexualité interespèce elle est acceptée, on va toujours observer qu'il y a beaucoup plus d'activités sexuelles entre des humains qu'avec des humains et des animaux. Parce qu'a priori, il y a une caractéristique cognitive qui va faire qu'il y a quelque chose en plus dans la sexualité entre humains.
Quand on vous écoute, Serge Wünsch, on a le sentiment que la sexualité interespèce est quelque chose de, entre guillemets, normal. Or, si on regarde les enquêtes et ce que disent les sexologues, ils indiquent souvent la présence de problèmes psychologiques pour les gens qui ont ce genre de pratique. Il n'y a pas une contradiction là ?
En fait, ces problèmes, on observe qu'ils existent surtout dans les sociétés où la sexualité interespèce, elle est réprouvée, elle est prohibée. Et puis d'ailleurs, en fait, on s'aperçoit que c'est une caractéristique qui est assez générale. Lorsqu'il y a une activité qui est prohibée, la majorité des personnes, en général, ne vont pas pratiquer les activités prohibées. Et c'est uniquement des personnes qui ont, alors, je sais pas moi, soit des environnements ou alors qui ont des caractéristiques particulières qui, en général, pratiquent ces activités prohibées. Et puis en plus, comme ces activités, elles sont interdites ou réprouvées ou prohibées, les personnes, elles vivent dans un environnement qui est hostile. Et cet environnement hostile, en général, il est psychologiquement très éprouvant et il est pathogène. Et puis encore une autre caractéristique, c'est que même s'il y a des personnes qui vont vivre d'une manière relativement positive leur sexualité avec des animaux, eh bien, en général, ces personnes, elles vont rester discrètes. Hein, elles ne vont pas dire à tout le monde qu'elles ont des activités avec des animaux. Et puis, elles ne vont pas consulter de médecins. Ce qui fait que les psychiatres et les sexologues ne rencontrent que les personnes qui ont des problèmes. Ce qui va entraîner que les problèmes, en fait, sont surreprésentés. Alors, techniquement, c'est ce qu'on appelle le biais de l'échantillon clinique. Si on essaie de faire un peu une synthèse hein, par rapport aux études disponibles qui existent actuellement, par rapport à ce que vous dites hein, sur les troubles psychologiques, un tiers des personnes qui ont des activités sexuelles avec des animaux, elles les ont parce que justement, effectivement, il y a tout un ensemble de problèmes psychologiques, alors de la timidité, un manque d'habileté sociale, etc., qui va faire qu'en fait, elles n'arrivent pas à avoir des relations avec des êtres humains. Et donc là, on peut dire que l'animal est effectivement un substitut à la sexualité avec des humains. On s'aperçoit aussi qu'à peu près pour environ la moitié des personnes, on peut dire que l'animal est plutôt une alternative. Ces personnes, elles ont des activités sexuelles avec des humains, mais on peut dire que ce n'est pas toujours des contes de fées, hein, parce que bon, ben, dans la vie de tous les jours, tout n'est pas parfait. Et donc, pour ces personnes, parfois, l'activité avec des animaux va être plus satisfaisante ou moins décevante, hein, ça dépend de quel point de vue on l'analyse, qu'avec l'activité sexuelle avec des humains. Et puis, on va mettre en évidence aussi qu'il y a une petite minorité pour qui on peut dire que l'animal est complémentaire. C'est-à-dire qu'ils ont une sexualité entre humains qui est satisfaisante, mais d'après ce que disent ces personnes, eh bien, l'animal va leur apporter des satisfactions affectives supplémentaires et qui sont, enfin, d'après ce qu'elles disent, qui sont rarement procurées par des humains. Alors, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est que l'animal, eh bien, avec l'animal, eh bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de critique. L'affection peut être très démonstrative, hein, comme pour les chiens, etc.
Alors, j'ai trouvé aussi une interview d'une autre personne qui s'appelle Annie Miletsky, qui est sexologue et sexothérapeute et qui s'est penchée sur la question de la zoophilie. Elle a été remarquée dès 1999 pour ses écrits sur le sujet, car elle insiste formellement qu'une véritable orientation doit exister et que les précédentes recherches avaient commis une erreur en la négligeant. Le livre « Understanding Bestiality and Zoophilia », publié en 2002, est un complément de sa dissertation originelle de 1999. Donc l'interview, elle est en anglais et je vous mettrai le lien sur notre page parce que ça vaut le coup de l'écouter. Donc malgré le caractère dérangeant que cela revêt, la zoophilie apparaît tout de même depuis la nuit des temps sur des illustrations, des dessins et même récemment au cinéma. Les premiers films ayant montré ce type d'image datent des années 70, avec par exemple « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander » de Woody Allen. Également « Padre Padron », qui est sorti en 77, où là, il y a une séquence où des paysans se livrent à des actes zoophiles sur des poules et des ânes. À noter qu'entre 86 et 2001, il semblerait qu'il n'y ait pas eu trop de références, et c'est que à partir de 2001 que ça réapparaît. En 2006, dans un épisode de la quatrième saison de Nip Tuck, une patiente a des relations sexuelles avec son chien et son mari en fait abat le chien pour mettre fin à cette relation. Il y a aussi plusieurs épisodes de South Park qui font allusion à la zoophilie. Par exemple, l'épisode intitulé « Le camp de la mort de tolérance » où M. Garrison insère via un tube une gerbille du nom de Lemmy Winks dans l'anus de M. Esclave devant ses élèves dans le but de se faire virer de l'école. Et on écoute tout de suite la petite musique de Lemmy Winks.
Lemmy Winks journeyed a distance far and fast to find his way out of a gay man's ass. The road ahead is filled with danger and fright, but push onward, Lemmy Winks, with all of your might. The Sparrow Prince lies somewhere way up ahead. Don't look back, Lemmy Winks, or you'll soon be dead.
lemmy wings, the time is growing late. Slow down now and seal your fate.
Alors, accrochez-vous parce que cette pratique sexuelle qui consiste à insérer un rongeur, le plus souvent une gerbille, dans son rectum via un tube, existe vraiment. Et si vous ne le saviez pas, ça s'appelle le gerbilling. Sur le sujet, j'ai trouvé une petite dépêche AFP qui a été postée il y a quelques années. On l'écoute tout de suite.
Donc, dépêche AFP. Après coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur, mais j'essayais seulement de récupérer le hamster, a raconté Eric Tomaszewski au docteur stupéfié de l'unité de brûlure sévère à l'hôpital de Salt Lake City. Tomaszewski et son partenaire homosexuel, Andrew Kiki Farnum, ont été admis pour un traitement d'urgence. Alors, il y a la déclaration d'un du couple. J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et j'ai glissé Ragotte, notre hamster, à l'intérieur, a-t-il expliqué. Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié Armageddon pour indiquer qu'il en avait assez. J'ai essayé de récupérer Ragotte, donc qui est le petit hamster qui ne sortait pas. Il a donc regardé dans le tube et il a craqué une allumette pensant que la lumière pouvait l'attirer. C'est là où ça se complique un petit peu. À une conférence de presse, un porte-parole de l'hôpital a décrit ce qui s'était passé ensuite. L'allumette, en fin de compte, a enflammé une poche de gaz intestinal et a... une flamme a jailli du tube enflammant les cheveux de Tomaszewski, évidemment, et le brûlant sévèrement à la figure. Et elle a aussi mis le feu au pelage du hamster qui, à son tour, a enflammé une poche qui était un peu plus loin dans l'intestin, propulsant le rongeur comme un boulet de canon. Alors la finale, c'est que Tomaszewski a été brûlé au deuxième degré, c'est pas drôle, et il a eu le nuque cassé par l'impact avec le hamster, tandis que Kiki, le partenaire de l'autre, il était brûlé premier et en second degré, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mais on n'aurait pas pu inventer un truc comme ça. C'est impossible autrement. Un bon réalisateur, il peut partir de ça et faire un sacré film. C'est une dépêche de l'AFP. Pardon, pardon Brigitte Bardot et Hamster, tout, pardon. J'aime les animaux.
C'était Eminem avec Fak. Vous êtes sur RDWA dans l'écoute alléchée. Pour continuer sur ces histoires de gerbilles et d'hamster, mais aussi pour sortir de cette émission sur une touche un peu plus légère, j'ai envie de vous parler d'une série qui s'appelle Pipoudou and the Superfuck Friends. Pipoudou, c'est une série française d'animation pour adultes, attention, je répète, pour adultes, créée par Yves Bigerel, alias Balak, et coécrite par Brice Chevillard, Nicolas Attané et donc Balak. Le projet de cette série est de faire un programme d'éducation sexuelle pour les plus de 18 ans et elle est diffusée depuis le 16 juillet 2018 sur Black Pills. Je vous en parle parce que dans cette série, les personnages sont des animaux et que donc le personnage principal, c'est Pipoudou, un petit hamster rose. Le docteur Monique Lachatte, une médecin qui intervient de manière récurrente pour expliquer la sexualité, donc en fait partie. Et il y a aussi les amis de Pipoudou, Kevin, un ours polaire qui deviendra Evelyne suite à un changement de genre à la fin de la saison 1. Il y a Gros Costaud, un buffle, le vieux Bernard, une grenouille âgée, Libraire et Lily, une éléphante. On écoute tout de suite un extrait du créateur de cette série.
Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il...
Avec son nom trognon et ses copains, Gros Costaud, Kevin et Lilifante tout mimi, Pipoudou a tout d'un conte de fées pour bébé, sauf qu'ici, ça part en sucette.
Je me demande qu'est-ce qui va bien nous arriver.
C'était pendant une nuit un petit peu... où je dormais pas et j'ai... Pour me détendre, je dessine beaucoup de cul, dessins de cul, de porno. Que je mets sur un Tumblr et je me représente souvent comme un espèce de petit personnage voilà et à un moment il y a quelqu'un qui sur mon Tumblr qui m'a demandé tu peux te dessiner mais avec une très très grosse bite et du coup j'ai commencé à faire des dessins de ce petit personnage avec une grosse bite donc personnage mignon plus truc grotesque porno et puis tout à coup, ouais, il y a eu cette phrase qui est apparue dans l'esprit, c'était « Dora l'exploratrice du cul ».
Installés en plein cœur du 20e arrondissement de Paris, les studios Bobby Pills sont les premiers en France à se lancer dans le dessin animé pour adultes. Avant de pondre Pipoudou, le dessinateur et scénariste de 38 ans fait ses classes dans l'animation jeunesse. Fan des hentai, ces mangas porno japonais, Balak compte une autre inspiration tout aussi cochonne. Les aventures de Peppa Pig, une série interdite aux plus de 5 ans et diffusée dans près de 180 pays.
Il a fallu que je me gaufre effectivement beaucoup de Peppa Pig. J'avais juste envie de mourir. Mais en voyant ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment la bonne direction parce que clairement, ça coûte vraiment pas cher. Il y a vraiment du foutage de gueule, il y a clairement des gens qui blanchissent de l'argent.
C'est quoi la prostate?
Je vais vous expliquer.
Mais qu'est-ce que vous... Oh non!
Si l'on masse doucement la prostate, on peut provoquer un orgasme prostatique. Il se caractérise par une grande intensité et un plaisir profond, qui n'est pas sans rappeler l'orgasme vaginal.
On se prenait des notes de chaîne de ahurissantes de bêtises, tellement justement il y avait la peur de l'anxiogène, qui était le mot sacro-saint, qui fait qu'on ne pouvait pas dessiner genre un adulte et un enfant seul dans une même pièce parce que nani nana. Après qu'il y ait eu le tsunami, à un moment j'avais dessiné dans une scène d'action des gamins en train de se faire poursuivre par une espèce de vague d'insectes mécaniques et tout ça. Et la note c'est ben non, le tsunami too soon.
Balak met un premier pied dans la porte du dessin d'animation pour adultes avec les Cassos qu'il co-réalise. Sortie en 2013 sur le net, la série place le public dans le rôle d'une assistante sociale recevant dans son bureau les héros de notre enfance.
Balak est donc l'auteur de Last Man, Les Cassos, Vermine et donc Pipoudou. Donc si vous ne connaissez pas et que ça vous intrigue, vous pouvez trouver cette série au www.bobbypills.com et après c'est Superfuck Friends et également aussi sur Vimeo. On vous mettra le lien dans le podcast de toute manière. En attendant de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau sujet, on vous fait plein de bisous papillons et surtout prenez bien soin de votre petite chatte.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Bye bye.